Merci, chère Florence, d'être là pour ce petit marathon. Donc, j'avais dit à François Hollande, quand il était venu il y a quelques années, vous avez été président 5 ans, mais l'usure du pouvoir est terrible. À Brive, on est président 3 jours. Donc, il faut vraiment la vivre pleinement. Comment ça se passe ? Comment ça se passe pour toi ?
Moi, je suis très contente. Et c'est vrai que Brive, c'est le premier festival où je suis allée. Et j'ai cru que c'était partout pareil. J'ai cru que partout, les gens étaient sympas, qu'il y avait des rencontres chaleureuses, que les gens posaient des questions pour savoir les réponses. Enfin bon, que c'est... ça n'est pas le cas partout. Et donc, je suis ravie d'être de retour à Brive parce que, en fait, c'est celui que j'aime.
Bon, merci, Florence. Alors, tu as voulu, et on est ravis, inviter Laurent Garcia. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir.
Alors... je vais te laisser le soin de présenter Laurent, puisque je crois que vous vous connaissez bien. Mais moi, je suis très touché parce que dans ce cycle de rencontres temps présent que François David, le commissaire, je ne sais pas s'il est là, François, mais même s'il n'est pas là, je m'incline quand même, parce que le commissaire a voulu parler travail, du travail cette année. Et quand j'ai regardé ce que vous aviez fait, Laurent, et que Florence m'en a parlé, j'ai mesuré à quel point, quand on parle de travail dans les EHPAD, dans ce qui est ces métiers du soin, on se rend compte à quel point tout est engagé, c'est-à-dire l'esprit, le corps, le temps. Je ne sais pas si on s'appartient encore complètement quand on fait ce travail-là. Et j'ai évidemment vu très vite des liens, parce qu'on se connaît depuis longtemps avec Florence, et puis je la lis, quand j'avais lu le quai de Ouistreham, où elle s'était transformée en femme de ménage, où là, le corps aussi était tellement mis en avant, mais aussi dans ton métier de journaliste de tous les jours, de reporter, sur les ronds-points, je me souviens, on en a souvent parlé, sur les ronds-points frigorifiés des Gilets jaunes. Bien sûr, j'ai vu une sorte de fraternité entre vous qui m'a paru évidente, mais je te laisse la parole, chère Florence.
Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous raconter, en fait, si tu le permets, notre rencontre.
C'était très beau.
Donc, alors, vous allez fermer les yeux et vous souvenir d'un drôle de moment, le premier confinement. Donc, on avait quand même tous assez peur. On pensait que sortir dans la rue constituait presque une menace de mort. C'est pas facile. Et les EHPAD ont été un des premiers lieux qui ont été impactés au sens où ils étaient fermés. C'est-à-dire que les familles n'ont plus pu y entrer. Les résidents, évidemment, n'en sortaient plus. Et ceux qui allaient y travailler, y allaient... alors vraiment la peur au ventre, vraiment littéralement. Et le journal Le Monde où je travaille me dit voilà, un truc qui serait génial, c'est que tu ailles passer 15 jours dans un EHPAD. Alors j'y vais avec plaisir, un peu jeune certes, mais le temps étant limité, c'est possible. Et donc on cherche, j'appelle partout, et aucun EHPAD n'a évidemment envie d'avoir un journaliste dans les pattes pour montrer, quoi, grosso modo, qu'il n'y a pas de masque, pas de vaccin, rien, les portes sont fermées, comment on va faire, le personnel ne vient pas, etc. Et donc, finalement, au bout d'un moment, je tombe sur un EHPAD à Bagnolet, les 4 saisons. Je tombe sur, voilà, je voudrais parler au cadre de santé, Laurent Garcia, oui, allô. Voilà, je suis journaliste au Monde, je ne fais pas mon petit baratin. Je voudrais passer 15 jours dans un EHPAD. J'avais déjà le dos voûté, rien qu'à réciter ma leçon. Et à l'autre bout du fil, j'entends « Mais bien sûr, venez demain !» Donc, je n'en revenais pas. Et donc, je dis « Mais alors là, tout de suite, vous savez, méfiance du journaliste. Quand on me dit non, c'est des salauds. Quand on vous dit oui, il y a bien une raison, c'est louche. » Donc, je dis « Mais est-ce que je pourrais assister à tout ?» Il me dit « À tout ?» Je dis « Bon, bah, écoutez, j'y vais. » Donc, j'arrive à l'EHPAD des 4 saisons. Et là, je rentre dans un univers incroyable. Donc, Laurent, qui est ici, dirige l'ensemble des opérations. Il y avait un directeur...
Tant bien que mal.
Tant bien que mal. Il y avait un directeur qui venait d'être nommé, parce que sont nommés en direction des EHPAD, très souvent des gens sortant de l'école de santé et de ce type de diplôme. Mais, allez, je pense ne faire ombrage à personne en disant qu'à quelques exceptions près, ce n'est pas les premiers classés qui choisissent les EHPAD. Et donc, il y avait dans son bureau un jeune directeur, bien plus jeune que toutes les aides-soignantes, qui passait pas mal de son temps à pleurer, mais je le comprends très bien, en disant « j'ai rien, j'ai pas de masque, on m'envoie au front sans arme ». Et donc, il y avait quelque chose de très poignant. Il en était tellement malade qu'il n'osait plus sortir de son bureau, littéralement. Et ensuite, il y avait toutes ces aides-soignantes qui étaient là, qui devaient assurer l'organisation des choses, et qui... Alors, donc, c'est presque toutes des femmes. Et là, on arrive à une chose qui était particulièrement intéressante, c'est dont les maris, eux, étaient confinés chez eux parce que le type de travaux qu'ils faisaient, le type de boulot, n'était pas des boulots jugés, vous vous souvenez, essentiels. Donc, vous deviez rester chez vous. Et alors, un certain nombre d'entre elles, mais pas toutes, étaient d'origine, certaines algériennes, d'autres d'Afrique subsaharienne, comme on dit pudiquement. Et les maris étaient à la maison, et donc elles étaient là, elles arrivaient tous les matins, en se demandant ce qui allait se passer. Et dès qu'elles arrivaient, les téléphones sonnaient des maris. Dis donc, comment on fait pour mettre le micro-ondes en marche ? Comment on fait pour donner le bain au bébé ? Donc les maris se retrouvaient à la maison, et ça ne leur plaisait pas du tout. Et donc les femmes sortaient, et souvent les maris faisaient pression pour qu'elles n'aillent pas travailler en disant « Reste ici, tu fais risquer notre vie à tous, tu vas ramener la maladie à la maison, arrête d'aller travailler, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et donc à la tête de cette étrange situation, il y avait Laurent qui faisait une réunion tous les matins à 9h et qui était chargé de motiver tout ce monde pour que ça tourne quand même. Et ça a été quelque chose d'incroyable. Donc c'est comme ça que j'ai connu Laurent. Et donc il arrivait, il disait il faut y aller, allez-y, faites-le. Donc les femmes disaient mais oui mais on est là, mais mon mari m'a dit. Par une grande thérapie de groupe où elle disait mon fils ne veut pas que je prenne les transports en commun parce que c'est trop dangereux et donc il m'amène en voiture, mais comme il a peur que je sois contaminée, il me fait monter derrière comme un chien. Et donc c'était vraiment dur. Enfin, il y avait vraiment une dureté des choses, et tout ça sans masque, donc sans aucune protection. Et à un moment, il y a une femme qui avait acheté au dealer du quartier, elle habitait une cité, un masque. Et donc elle arrive avec son masque, et ça a été vu par toutes les autres comme une trahison. À toi tu le mets. Personne n'en avait sauf elle. Et c'était une situation incroyable de travail et de dévouement au travail de personnes qui, pour la plupart, ont des salaires très petits.
Très faibles. Alors, Laurent, on a envie de vous entendre, vous demander comment votre vie a changé dans cette période-là. Je sais qu'elle a encore changé depuis après. On va parler évidemment du livre des Fossoyeurs que vous avez, d'une certaine manière, suscité comme un lanceur d'alerte, mais on y reviendra. Comment vous avez vécu ce que Florence décrit, mais elle arrive justement, elle découvre ce monde. Vous avez vu cette bascule comme ça tout d'un coup des conditions de travail ?
Mais moi, j'ose le dire, c'était un moment merveilleux. La vie n'existait plus à l'extérieur, il n'y avait plus de vie. Et quand on arrivait à l'EHPAD, la vie, elle était là. Et ça a créé quelque chose d'assez incroyable. Au niveau des équipes, au niveau des soignants, au niveau de tout le monde, on est devenu une vraie famille à ce moment-là. Il n'y avait plus la famille à l'extérieur, donc la famille, elle était là.
Combien de personnes à l'EHPAD ?
C'est un petit EHPAD de 66, il y avait 66 résidents, on était complet, oui. Et ça a créé ce lien-là. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que les premières réunions, peut-être avant ta venue, où les soignantes me disaient, en fait, nous, on veut bien venir, mais c'est nos maris, nos enfants, ils ont peur. Et du coup, je leur ai dit qu'à cela ne tienne, je vais appeler vos familles. Et en fait, le fait d'appeler les familles, ça a créé ce lien dedans et dehors. On parle souvent de l'EHPAD hors les murs. Hein. On ne va pas en parler. Ça me fait bien rire. Mais en attendant, ça a créé ce lien. Ça a créé... je ne sais pas, on se sentait... En fait, on était en danger, entre guillemets. Mais moi, je me suis toujours senti protégé dans l'EHPAD. Par contre, quand je sortais... Je mettais un pied à l'extérieur de l'EHPAD, on faisait beaucoup d'heures. Je me mettais à pleurer, très bizarrement. Mais la vie, elle était à l'intérieur de l'EHPAD. C'était magique, vraiment.
On a entendu les hécatombes dans certains EHPAD. Est-ce que vous avez... Il y a eu aussi comme ça ces drames du Covid chez vous ?
Il faut dire aussi que on était un EHPAD un peu particulier parce qu'on a réouvert très vite aux familles. On a réouvert aux intervenants extérieurs, j'en vois une, très très rapidement. Et du coup, il y avait ce danger qui planait. On a eu des cas Covid, on n'a pas eu de décès. On était protégés, on a été le seul établissement d'Île-de-France à ne pas avoir de décès.
C'est quand même, c'est
et tous les jours, j'avais un appel de l'ARS qui me disait « Alors ?» Et à un moment, mais j'avais une pression tous les jours quand ils m'appelaient, parce qu'ils étaient limite en train de me dire « Il nous pipote, le garçon. »
Oui, oui.
Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de décès. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que l'énergie qu'a pu donner Florence aux équipes, parce que quand elle vous dit « j'ai été refusé de partout », un journaliste quelconque m'aurait appelé, je ne sais pas, on me dit « Florence Aubenas », je dis « ouais, venez, avec plaisir ». Non, mais il y a aussi cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de décès, on a réouvert très rapidement, mais on a vécu ce moment avec les résidents dans une certaine... C'était joyeux. Même quand on a eu une épidémie de Covid, c'était joyeux. On a continué à danser, à chanter, à faire les cons. Et je crois que le rire soigne.
Le rire soigne, oui. Alors, Florence, avec tes yeux neufs, justement, toi qui as été sur tellement de terrains si différents, qu'est-ce qui t'a surprise quand tu es arrivé, que tu as vu la vie dans cette EHPAD dans ces conditions-là du Covid ?
Alors, je connaissais malheureusement les EHPAD pour avoir eu des membres de ma famille qui sont allés. Et donc, ça n'était pas un endroit... je trouve que c'est des endroits difficiles. Et en particulier, les personnes de ma famille qui y étaient ne le souhaitaient pas. C'était la génération au-dessus, ma grand-mère, mon grand-père. Donc, ça n'était pas des endroits où on allait volontiers. On savait qu'ils ne voulaient pas y aller. Donc... j'y allais avec un sentiment très mitigé, c'est-à-dire c'est un lieu voilà, où je n'avais pas forcément des très bons souvenirs. Quand je suis arrivée là, il y avait cette espèce de pression de l'extérieur qui était... Il y avait tous les jours des mails, je me souviens, qui arrivaient en disant « Si vous voulez recevoir des housses mortuaires... » Enfin, c'était incroyable. « Adressez-vous rapidement à ceci, cela. » Donc, il y avait ça... Et la peur des gens de contaminer leur famille. Donc, il y avait cette espèce de pression. Mais c'est vrai qu'assez vite, s'est mis en place une petite république autogérée, pour dire comme ça. Alors, plus rien n'arrivait parce que, évidemment, il y avait des ruptures d'approvisionnement. Donc, il n'y avait plus de tel ou tel produit. On mangeait ce qu'il y avait à manger. C'était vraiment une expérience presque, je dirais pas de Robinson Crusoe sur une île, mais on était en effet une petite république isolée du monde. Et alors assez vite, comme les gens n'étaient pas forcément très nombreux, je me retrouvais à pousser moi-même les chariots parce que de toute façon il y avait peu de monde. Et ce qui était marrant, c'est que tout le monde avait à choisir. Alors ce que je veux dire par là, c'est par exemple à un moment ils ont décidé d'ouvrir cette unité Covid, et donc ouvrir l'unité Covid et y travailler voulait dire je me sacrifie, je vais voilà. Et donc Laurent dit à cette même réunion, voilà, il va falloir ouvrir une unité Covid. Qui veut y travailler ? Et là, tout le monde commence à se regarder et la discussion commence très ouverte, de façon. Alors l'une dit, non, moi je peux pas, j'ai des enfants petits, s'il m'arrive quelque chose. Alors l'autre, donc ils ont choisi une fille qui a dit, bon, les miens sont grands. Je vais y aller. C'était très, très émouvant. Il y en a une à qui on a dit, vous voulez le faire. Ah non, moi, j'ai déjà eu les punaises de lit. C'était comme ça. Et c'était très, très cru, très cash. Et donc, c'était chaque fois ça. Est-ce que tu reviens demain ? Oui, je reviens demain. Chaque jour était un jour à conquérir. Et chaque jour était un jour à décider, est-ce que je reviens ou pas ? Est-ce que je me mets en congé maladie ou pas ? Et très vite, les gens se sont mis en réseau de solidarité en disant « si tu viens, je viens si ». Donc, c'est comme ça que ça tenait.
Oui, oui. Alors justement, Laurent Garcia, en écoutant Florence, est-ce qu'il y a eu de l'absentéisme ? Au contraire, tout le monde a joué le jeu, entre guillemets, parce que c'était un jeu de la mort au début. Il y avait quand même une vraie inquiétude.
Non seulement il n'y a pas eu d'absentéisme, mais en plus, les équipes se sont remplacées entre elles. Donc, je n'ai pas eu à faire appel à des vacataires. Je n'ai pas eu... Et il y a eu vraiment cette idée de grande famille. Et même les résidents étaient joyeux. Donc, il a fallu qu'on sorte avec eux pour qu'ils voient qu'il ne se passait plus rien à l'extérieur. Et il y avait finalement cette joie d'être ensemble. Ouais.
Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes celui qui a inspiré ce livre dont on a tant parlé, de Victor Castanet, les Fossoyeurs, sur la maltraitance dans des EHPAD, pas tous les EHPAD de France, mais en tout cas, l'enquête a été très forte. Et en quoi vous... Qu'est-ce qui faisait... Parce que je comprends que dans votre EHPAD, les choses se passaient plutôt bien.
C'est un EHPAD public et le livre est sur un EHPAD privé.
Voilà. Donc c'est ça qu'il faut bien expliquer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez contacté ce journaliste, j'imagine, ou il y a eu quelque chose de cet ordre?
Il y avait déjà eu un article que Victor était déjà venu me voir pour un article qui s'appelait « L'homosexualité interdite de séjour en EHPAD ». Donc il y avait eu cet article dans Le Monde Magazine, un article magnifique, je vous le conseille, vraiment très beau. Et moi, j'avais travaillé 8 mois, du coup, pour ce groupe, Orpea, pour ne pas le citer, pendant 8 mois. Et en 8 mois, je perds 8 kilos. Je vois des choses très bizarres au niveau de la gestion de la masse salariale et tout ça. Je me pose des questions. Ils finissent par me virer, bien évidemment. Je croise Victor et je lui parle. Je lui raconte un peu sur mes doutes, sur ce que... Enfin, c'était que des doutes. Moi, je n'avais pas accès... aux finances. Et au départ, il ne me croit pas. Ça va énerver mon mari, mais au bout de 3 verres de vin, il finit par me croire et il me dit « on y va ». Et l'enquête commence comme ça. C'est petit à petit. Mais en attendant, ce que j'avais vu dans cette EHPAD, je ne pouvais pas laisser passer ça. En fait, quand je suis parti, parce que les familles s'étaient réunies en asso aussi, et j'avais dit aux familles « je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vous promets, je ferai quelque chose ». Voilà, ça a pris 3 ans, parce que l'enquête a pris 3 ans. Mais en attendant, moi, je ne connaissais que cet EHPAD chez Orpea. Hein, mais laisser un EHPAD dans un tel état, partir et fuir, finalement, c'était pas pensable.
C'était la maltraitance au quotidien que vous voyiez ?
Pratiquement aucun salarié en CDI, que des vacataires. Donc il y a des matins où j'avais 4 vacataires, d'autres matins j'en avais 3. En fait, c'était complètement incohérent. C'était quand même l'EHPAD le plus luxueux de France. C'est entre 300 et 600 euros la nuit. C'est pas rien. Et c'est pas la raison. En plus, je l'aurais fait pareil dans un autre EHPAD. Mais j'avais, par exemple, une soignante le matin pour 33 résidents. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. En fait, oui, la soignante était maltraitante. Et oui, je me souviens d'un matin où elle a oublié une dame dans la salle de bain. J'ai retrouvé cette dame nue sous la douche. Mais qu'est-ce que... Enfin, voilà.
Elle était toute seule.
Elle était seule. Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour vous? Parce que, si j'ai bien compris, ça n'a pas été... Vous avez eu ce courage et aussi, cette conscience... On pourrait dire citoyenne aujourd'hui, de dire à un journaliste, il faut aller enquêter. C'est effectivement le moteur de notre métier, Florence, c'est enquêter, apprendre quelque chose de neuf qu'on ne connaît pas, porter à la connaissance d'eux. Mais pour vous, ça a été compliqué.
Ce qui est difficile, c'est que on a des autorités de tutelle. On a l'ARS, on a la HAS. J'avais même prévenu le défenseur des droits, donc j'avais été interrogé pendant 4 heures. Par une équipe du défenseur des droits, qui m'annonce au bout de 4 heures que de toute façon, ils ne pourront ni citer l'EHPAD ni le groupe. Et là, je leur dis, mais en fait, je suis là, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et j'avais fait remonter à l'ARS, simplement l'ARS ne bouge pas. En fait, il n'y a que les médias qui font bouger les choses. Donc, évidemment, il fallait que je trouve un journaliste qui a envie de passer un long moment à enquêter.
Et pour vous, ça a eu des conséquences sur votre travail, sur votre vie? Vas-y, Florence.
Dire la vérité.
Ouais, c'est compliqué. Je ne sais pas comment dire. C'était 3 années un peu difficiles. Parce que vous vous dites... C'est pas du courage, hein. Je vous jure que non, parce que je flippais en fait. Vous dites souvent, certains soirs, vous dites là, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Qu'est-ce qui va se passer pour... Vous pensez à vous, hein. Désolé, mais c'est ce qui se passe. Après, j'ai été hyper bien entouré. J'avais les moyens aussi de dénoncer, parce que je suis pas seul, parce que parce que c'est tout ça. Ouais, j'avais les moyens de ne plus avoir de boulot parce que j'étais soutenu. Tout était bien finalement, mais ces trois années un peu stressantes, un peu angoissantes, parce qu'on en apprend de plus en plus et que je sais que à des moments ça va être compliqué.
Florence, comment tu as reçu toi toute cette ce qu'a été la démarche de Laurent, et est-ce que tu as essayé d'intervenir à ta manière, c'est-à-dire par l'écriture, mais aussi par des conseils ou par un accompagnement?
Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on est journaliste comme ça, il y a des sujets qu'on a dans un coin de sa tête et dont on ne sait pas comment ça va évoluer. Et donc, c'est vrai que les EHPAD, j'en avais une expérience personnelle. Et il m'était aussi arrivé, une ou deux années avant le Covid, une femme m'appelle un matin en disant, voilà, je fais partie d'un EHPAD à Foucheron. Vous voyez où c'est, non? À côté de Dole, mais si, bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà. Et on fait une grève devant notre EHPAD, sous une tente, depuis un an. Je lui dis, depuis un an? Je lui dis, vous êtes combien? Aujourd'hui, on est quatre. Demain, on sera... Et tout à coup, je me dis, c'est dingue. C'est le courage incroyable de ces femmes de planter une tente devant leur lieu de travail, d'y aller tous les jours, de faire grève devant leur patron et de continuer à protester pendant un an. Un an, c'est énorme, c'est-à-dire non payé, c'est un EHPAD privé aussi. Et donc elles me disent, vous n'avez qu'à passer. Et je dois vous dire que à un moment, j'avais évoqué l'idée pour moi de me dire, voilà, j'ai fait le Quai de Ouistreham, j'ai fait cette expérience d'immersion avec des femmes de ménage en cachant mon identité, et si je le faisais en EHPAD? Si je devenais, après tout, ils recrutent, je pourrais être aide-soignante dans un EHPAD. Et je ne l'avais pas fait parce que ça me semblait, alors ça va peut-être vous sembler bizarre, mais ça me semblait déloyal. C'est-à-dire, je me dis, j'ai travaillé avec des femmes qui ne savent pas qui je suis. Alors, est-ce que moi aussi, je vais avoir 33 personnes pour moi seule et les laisser sous la douche? Donc, vous êtes vous-même maltraitant. Si j'en vois une qui maltraite, est-ce que je vais aller la dénoncer et à qui? Donc vous retrouvez, me semblait-il, dans une situation qui n'était pas celle que je souhaitais. Et donc je me suis dit, vous savez, faire le ménage et dénoncer les conditions d'une femme de ménage, après tout, vous avez maltraité l'aspirateur, c'est pas si grave. Des personnes, ça me posait d'autres problèmes moraux, éthiques, enfin différents. Et donc je cherchais à comment traiter ce problème des EHPAD. Et donc je me dis, allons à Foucheron voir ces trois personnes dans leur tente en face de l'EHPAD. Et donc j'y arrive, et là, le ciel me tombe sur la tête. C'est-à-dire, elle raconte, et vous savez, elle raconte comme ces gens, peut-être vous en avez connu, qui ont vécu des situations terribles, en tout cas qu'elles vivaient comme terribles, et vous êtes la première personne, et c'est un moment incroyable, à qui elle le raconte. Et tout sort d'un coup, elles ne savent même plus comment s'arrêter, elles ne savent plus quel mot utiliser. Et donc, tout sortait d'un coup, je me rappelle de celle qui disait... moi, le matin, je ne les recouche pas, je les jette au lit parce que je n'ai pas le temps. Et donc, il y avait des mots extrêmement forts. Tous les matins, je choisis entre brosser les dents ou laver les pieds. On ne peut pas tout faire. Et tout sortait comme ça en vrac. J'ose même pas dire qu'il n'était même pas question de salaire. Il était question de la façon dont on pouvait travailler, des conditions de travail, plus que de ce qu'on touchait en fin de mois. Et donc, j'avais raconté ça et ça me semblait le très bon moyen... que de faire raconter par elle-même ce qu'elle se retrouvait à faire. Beaucoup plus fort que si moi j'arrive en disant, regardez, vous avez certainement vu des caméras cachées dans les EHPAD, etc. Il y a eu certains sujets là-dessus. Et je trouvais plus fort qu'elle-même le dénonce, qu'elle-même s'auto-dénonce d'une certaine façon. Et donc c'est vrai que c'était un sujet qui me tenait à cœur, que j'avais à l'œil. Et quand j'ai vu Laurent se débattre dans ces choses-là, je me suis demandé, mais comment il fait? Comment il va faire? Comment il va pouvoir s'en sortir? Et j'ai appris, il avait déjà commencé son projet de livre avec Victor, quand on s'est rencontrés. Et quand il a commencé à dénoncer, je me suis dit, ça va être... c'est terrible, hein, c'est lanceur d'alerte, quand vous entendez ce mot, peut-être certains d'entre vous le sont ici, c'est très valorisant, il y a un côté héros et c'est formidable. Quand on se le tape au quotidien pendant des années, la réalité est tout à fait autre, hein, permettez-moi de vous le dire. Et donc j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont le courage de faire ça. Et c'est vrai que Laurent, c'était pas facile.
Non.
Allez-y, oui, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous et le regard que vous menez sur cette action.
En fait, moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Ce serait à refaire, je le referais. Je l'ai refait il n'y a pas très longtemps pour un EHPAD, d'ailleurs. Mais c'était... Bon, passons. Mais en attendant, Florence, elle m'a aidé. Elle m'a aidé notamment quand le livre est sorti. Parce que là, il y a toute la presse qui se met à vous appeler. Vous commencez à être connu dans le coin. Les médias vous appellent. Tout le monde vous veut pour tout et n'importe quoi. Et là, il y a Florence qui me disait « Non, ça, Laurent, tu ne fais pas. » Voilà, il y a eu aussi cette chose-là. Parce que, d'une part... C'est agréable quand vous vous sentez écouté. Donc les médias vous invitent, vous pouvez enfin dire les choses, enfin lever une partie du voile qu'on avait posé. Donc forcément, vous vous dites, je vais y aller. Et c'est ce que j'ai fait, hein, d'ailleurs. On m'a vu un peu partout. Et après, tu étais de bons conseils, finalement, parce que ça se tasse.
Finalement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça se tasse. Le voile qu'on avait un peu soulevé... Eh bien, on le remet tout doucement. Et s'il n'y a pas quelques personnes en France qui traitent de ce sujet-là, je vois Marie en face de moi, Marie de Henzel, mais voilà, c'est un sujet grave, c'est un sujet qui nous concerne tous et qu'on a tendance à oublier. La vieillesse, elle peut réellement être désirable si on la prépare, si on n'attend pas le dernier jour. Il y a toutes ces choses-là. Après, le fait de ces 3 années, je vais un peu dans tous les sens, mais ces 3 années d'enquête, ça a été 3 années pas complètes, mais beaucoup de menaces, beaucoup d'appels téléphoniques pas très agréables. C'est dur si vous n'avez pas derrière vous une famille qui est là. C'est intenable, hein, je vous jure, c'est intenable. Et il y a des moments où vous vous sentez fort, vous êtes plein d'énergie, et puis il y a des moments où vous vous mettez à pleurer, vous ne savez même pas pourquoi. Il ne s'est rien passé, mais vous vous mettez à pleurer. Et puis, il y a ce stress énorme le jour où le livre sort. Parce que là, il y a quelque chose de l'effondrement. Vous avez l'impression qu'autour de vous, tout s'écroule et que ça va devenir ingérable.
Alors, ça l'était. Enfin, de ce que j'ai vu, tu m'arrêtes si... on n'en a jamais parlé, en fait, si, de façon si claire. Et ce qui était très, très particulier, donc le livre sort, donc Laurent et Victor sont appelés à témoigner, donc c'est un moment fort, incroyable, etc. Et je me dis, ça va être dans ce milieu, il ne le sait pas encore, mais ça va être un pestiféré. C'est-à-dire, qui va embaucher Laurent Garcia pour venir dans un EHPAD être cadre de santé? Alors, dans l'EHPAD où il était, ça a commencé à sentir un peu le roussi. C'est-à-dire, il est sorti du Covid, de la gestion de tout ça, avec une couronne de laurier, c'est celui qui a motivé tout le monde, les familles l'adoraient, etc. Quand le bouquin est sorti et que tout le monde a percuté que c'était lui, je ne dis pas que les regards ont changé, mais il y a eu un petit flottement. Mais alors, c'était celui qu'on croyait, c'était pas
une
celui
gêne,
qu'on
comme
croyait.
Une gêne, un peu.
Oui, une gêne. Et d'ailleurs... Ça n'est pas étonnant. Je me disais, combien de temps il va encore tenir à l'EHPAD? Pas très longtemps. Combien de temps t'es resté après le livre? Ouais, quelques mois. Bon. C'est-à-dire, c'était plus possible, alors que c'était quelqu'un de très populaire dans cet EHPAD. Enfin, c'était les gens, certaines personnes venaient aux réunions pour lui. Enfin, les familles se bousculaient, et Laurent, et ceci, et donne-moi une brioche, et le goûter. Voilà. Et d'un coup, il y avait. Voilà. Vous savez, tout est pareil. Mais il y a ce petit truc qui a changé dans le regard, il y a ces petits gestes qui ne sont plus les mêmes, il y a le bonjour qui sonne un peu faux. Et donc, assez vite, il est parti sans qu'il n'y ait rien eu, mais ce n'était pas tenable, je pense, sincèrement.
Qu'est-ce qui s'est passé alors, oui, le mois après?
Je ne sais pas. Je crois que déjà, ça m'a fait changer. Non, mais c'est une réalité, on change quand il vous arrive des choses comme ça. Après, le regard des gens, c'était... C'était pour les équipes que sur les pattes, ils avaient cette certaine fierté de ben ouais, Laurent Garcia, il est chez nous. Et en même temps, je sentais avec la direction que j'avais, qui avait très peur parce qu'on me voyait trop dans les médias. Ça a été très, très compliqué avec la direction. Et c'était une période où forcément, moi, j'étais pas bien. non seulement j'étais pas bien, on me donnait la parole, je la prenais, et en plus, je le dis, j'aime bien la lumière, c'est plutôt agréable. Donc je prenais la parole, j'étais mal, ma direction ne le supportait pas. Les équipes étaient plutôt fières, mais c'est vrai que tout change.
Et alors, et maintenant, j'allais vous dire, j'ai lu des choses sur l'Observatoire du Grand Âge, des initiatives que vous prenez. Qu'est-ce qu'est votre vie aujourd'hui après ce moment où vous avez, alors vous dites, je sais pas si je suis courageux, mais enfin, c'est pas si évident que ça, j'en suis sûr, dans tous les domaines, à un moment donné, de dire, mais vous savez, là, il y a quelque chose, il faut vraiment y aller, parce que vous êtes mis en danger, malgré tout, pour votre parcours professionnel, pour une forme de tranquillité ou de sérénité.
Ah, pour mon parcours professionnel, oui, ça c'est certain. Une forme de sérénité, il n'y en a plus, parce que ça devient un combat, parce que vous avez, à la sortie du livre, vous avez beaucoup d'espoir. Vous êtes reçu par le ministre de la Santé, vous êtes reçu par tout ce beau monde qui vous dit on va faire des choses, et puis vous apercevez que petit à petit rien ne se fait, et que ben, de nouveau on va essayer d'éviter d'en parler, et vous êtes un peu blacklisté partout. C'est sûr que pour trouver un job, ça devient compliqué, je fais peur, les gens n'ont rien compris parce que je devrais pas faire peur. Mais en attendant, je fais peur, donc tout devient compliqué. Et en même temps, il y a cette rage de vouloir faire à tout prix changer les choses. Et puis le combat continue d'une manière peut-être différente, où ça prendra aussi du temps. Mais en attendant, je lâcherai rien et jamais.
Florence, quand on apporte la vérité, c'est dangereux alors ?
C'est en tout cas ce qui est sûr, dangereux, je ne sais pas si c'est le terme que j'emploierais, mais ce que je vois très régulièrement, c'est que c'est assez risque et péril. C'est-à-dire que vous pensez que vous faites quelque chose pour le bien collectif. Toi, personnellement, tu n'avais pas grand-chose à gagner. C'était ton milieu de travail dans lequel tu te dis, voilà, moi, je voudrais que ça change, ça ne devrait pas être comme ça, etc. Et c'est soi-même qu'on met en danger. Et alors qu'on fait quelque chose pour le collectif, on se retrouve au final tout seul. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappée dans ce qui s'est passé pour Laurent. C'est-à-dire que, vous savez, c'est ce moment où votre travail est votre travail, que vous essayez de le faire le mieux possible, qu'on s'engage, etc. Et que tout à coup, ça devient bataille. C'est-à-dire que tout ce qui était simple devient compliqué. Tout ce qui était qu'on devrait faire normalement devient... Voilà, il faut faire ça, et même soi-même, parce que on n'a plus rien envie de laisser passer. On se dit, au point où j'en suis, et ben voilà, il faut faire comme ça. Et je trouve que c'est très compliqué de changer certains, enfin de changer la plupart des milieux et d'être celui qui apporte ça. C'est-à-dire que quand on est journaliste, ce qui m'intéressait aussi, c'est que moi je suis journaliste et finalement c'est mon travail de faire ce genre de choses, de dire, voilà, travail précaire, c'est compliqué pour telle et telle raison, en EHPAD, en effet, les conditions sont de telle manière. Mais je n'y travaille pas, et quand un journaliste le fait, finalement, il fait son boulot, et il est payé pour ça. Lui, il n'est pas payé pour dénoncer ce qu'il fait en EHPAD. Et donc, la condition est très différente, et à la fois, on est obligé de le faire ensemble, mais on ne risque pas la même chose. Et très souvent, on vous dit, oh, vous les journalistes, vous êtes tellement géniaux, vous risquez votre vie et ce genre de choses. Finalement, c'est pas nous qui prenons ces risques-là, c'est plutôt ceux qui sont dedans et qui nous informent.
Et ce qui est étonnant, je crois, je ne l'ai jamais dit, mais quand le livre est sorti, l'éditeur m'a appelé pour me dire, Laurent, tu ne prends plus les transports en commun. Il y avait trop de menaces de mort, mais pas sur Victor.
Parce que c'était par vous. Le Victor, après tout, Castanet, il avait bien sûr enquêté, mais ça venait. Voilà. Mais il y avait une chanson de Guy Béard il y a très longtemps. Bon, il disait, le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Il y avait quelque chose. C'est sur vous que la charge a pesé. Le milieu a considéré que c'était à cause de vous que le scandale avait éclaté.
Oui, et puis les gens du milieu, les directeurs d'EHPAD, directrices d'EHPAD, me juger sans même avoir lu le livre. Pour eux, je faisais uniquement de l'EHPAD bashing, et ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière où voilà, une directrice m'agresse un peu verbalement pour me dire, de toute façon, ce livre, vous avez fait... Enfin, c'était très agressif, Et je lui dis, mais est-ce que vous avez lu le livre? Et elle me dit, non. En fait, voilà, il y a eu tout ça aussi. Beaucoup de gens ont refusé de le lire, les gens du métier. Beaucoup de gens du métier ont dit, moi, je ne lis pas ça. Ouais. Et du coup, évidemment, on se fait un faux avis. Sur
oui, la c'est une idée reçue, c'est, ils se sont fait leur idée avant même d'avoir...
Et ça, c'est super dur. C'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose que je traînerai longtemps, je crois. De toute façon, cette histoire, je la traînerai à vie. Mais ce n'est pas si simple.
Mais j'ai envie de vous demander ce que vous faites aujourd'hui, quels sont vos projets, vos actions. Et je vois que Florence rit. Alors.
En fait... Je ne sais pas s'il faut. Je peux le dire.
Oui. Il n'y a pas de journaliste.
Donc vous pouvez y aller. Ça va. En fait, il y a une loi qui est passée après la sortie du livre en janvier 2022, comme quoi tous les établissements sanitaires et médico-sociaux devraient être évalués tous les 5 ans. C'est ce que je fais jusqu'à fin novembre. En fait, je me suis
donc une évaluation sur le terrain.
Sur le terrain de tous les établissements sanitaires et médico-sociaux. Ce qui est quand même très étonnant, c'est que ce sont des boîtes privées qui font ces évaluations, plutôt bien payées. En attendant, je l'ai fait, et là j'ai démissionné. En attendant, voilà, j'ai fait ces évaluations et ça m'a permis, il y a quelque chose de très positif, c'est que j'ai découvert des lieux incroyables. Des EHPAD où je me suis dit, ouais, là j'irai avec grand plaisir, comme des lieux plutôt sordides. Mais en fait, ça m'a permis de me dire que oui, c'est possible. C'est possible de créer du désir et même de désirer rentrer dans certains EHPAD. Et ça, c'est fort, quoi. Parce que j'ai. Après, voilà, il y a d'autres choses qui éthiquement m'ont gêné, qui. Donc j'arrête là à la fin du mois, parce que ces évaluations, on les envoie à la HAS et à l'ARS. Simplement, moi, à l'ARS, on m'a clairement dit, mais tu sais, Laurent, on n'a pas le personnel pour les regarder. Donc c'est compliqué. Alors peut-être qu'au fil de l'eau, ça. J'aimerais bien qu'à un moment, et ces évaluations devaient être visibles par tous aussi. Ça veut dire que vous cherchez, vous, un EHPAD pour vous, vous allez sur le site, vous regardez tel EHPAD, comment il est. Simplement pour que ça soit visible par tous, il faut qu'il y ait un décret qui passe. Le décret devait passer il y a déjà pratiquement un an, il est même pas. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit prévu. Donc il y a tout ça qui fait que, en fait, on a créé ça. Ça coûte beaucoup d'argent, ça pourrait être hyper bien. Très sincèrement, c'est quelque chose de cohérent, de sensé. Simplement, il y a pas la finalité, elle y est pas. Donc
c'est ça.
Voilà. Donc le bonheur, quand même, je le dis, c'est d'avoir découvert des établissements avec les mêmes difficultés que d'autres et qui fonctionnent d'une manière incroyable. Donc oui, c'est possible avec parfois des peu d'argent, finalement. Oui, il y a des choses de possibles.
Mais alors, c'est assez sidérant de vous entendre comme témoignage, mais est-ce que vous avez le sentiment que des choses changent ou non?
Non. Je ne sais pas si... J'ai croisé Jérôme Guedj tout à l'heure qui m'a dit, Laurent... On va avoir une loi à grand âge. Moi, je lui ai dit, j'ai encore des doutes. J'espère qu'il dit vrai. Non, rien ne change. Non. On a parlé énormément à la sortie du livre, des EHPAD, de la vieillesse. On en parlait, mais à toutes les sauces. Ça, c'est évidemment, et c'est normal, ça s'est arrêté. Je parlais à Florence tout à l'heure et je lui disais, j'ai fait le salon et j'ai découvert qu'il y a énormément de livres qui traitent de la vieillesse. Ah oui. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle fait peur. J'espère que ce n'est pas que pour ça. Mais en attendant, il y a énormément de livres sur la vieillesse. Et j'ai croisé certains auteurs, je n'ai pas discuté avec eux. Mais je ne sais pas si c'est parce que la vieillesse est désirable ou si c'est parce qu'on a peur. Mais il y en a. Mais il ne se passe rien.
Florence,
pas grand-chose.
C'est ça. Florence, est-ce que ça te donne envie d'aller de nouveau dans un EHPAD pour voir si finalement, en N+2, N+3, tout ça, finalement, de documenter d'une certaine façon ce que vient de nous dire Laurent.
Oui, bien sûr. Alors, la chose que je trouve intéressante, c'est qu'en fait, Laurent est parti évaluer des EHPAD et il est retourné évaluant l'évaluation. Donc, je trouve ça déjà intéressant comme démarche. L'autre chose que je trouve que ça met en évidence, c'est le circuit qui permet de modifier les choses dans notre société. Et ça, c'est toujours assez étonnant. Vous savez, au Parlement européen, les députés d'autres pays regardent les députés français en disant « Oui, la France, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme, mais pas de leur application. » Et on a toujours des idées, on va faire une évaluation, on va faire ça. J'avais eu exactement le même sentiment après avoir fait Kedwistrem sur le travail précaire. Donc il fallait réglementer le travail précaire, payer, en tout cas faire participer en dessous d'une certaine vacation, participer au temps de trajet par exemple, payer les heures supplémentaires, ce qui n'était pas le cas. Donc il y avait tout un petit arsenal à mettre en place. Et là-dessus, alors gros ramdam politique, un peu du même genre. Oui, alors on va mettre ça en place, on va faire une loi. Alors je dis, écoutez, en France, on va faire une loi, j'en suis sûre. Mais regardez la loi sur le travail des femmes d'Yvette Roudy qui date des années 70. Elle n'est toujours pas appliquée. Donc je pense que ce que nous devrions faire d'abord, monsieur, alors c'était des députés, etc., des décideurs, c'est vous, dans votre circonscription, à l'Assemblée nationale, dans les lieux que vous fréquentez, même professionnellement, qui fait le ménage ? Qui fait le ménage et comment ? Ah, je ne sais pas au courant, etc. Je dis, bah, renseignez-vous. Donc en général, c'était toutes ces mêmes boîtes de services qui ne payent rien et qui, bon, voilà. Je dis, bon. Eh bien, écoutez, alors, mieux qu'une loi, prenez des femmes de ménage que vous payez correctement et arrêtez ces systèmes-là. Ah, mais ce n'est pas moi qui décide ça. Je dis, mais alors, on va faire une loi. Et donc, il y a cette espèce de manière de faire qui serait d'édicter quelque chose dont on sait que ça ne va pas être respecté, mais c'est dit, et voilà, et parlons d'autre chose. Donc, je pense qu'il y a une façon de prendre les choses en main, ce que tu dis un peu sur les EHPAD, d'ailleurs, que chacun, avec les mêmes moyens, peut faire quelque chose de très différent. Et que là, c'est pareil. Et donc, c'est ce circuit de décision, je trouve qu'en France, il a quelque chose qui le grippe à la base. Et donc, et la deuxième chose, c'est toujours évidemment notre boulot de journaliste, où on se dit, on est là, vous savez, quand vous êtes à l'école de journaliste, vous dites, j'ai changé le monde, après cet article, ça va barder, etc. Et vous dites, bon, la presse condition nécessaire, mais certainement pas suffisante. Et c'est vrai que sur les EHPAD, j'en suis persuadée, un sujet qu'on n'a pas envie de lâcher. Et que là où je pense encore, c'est qu'une fois encore, c'est le reportage qui compte. C'est-à-dire, c'est aller dans un EHPAD, montrer ce qui s'y passe, parce que c'est bien ou parce que c'est pas bien, et continuer à faire ce boulot-là. C'est vrai que quand Laurent a commencé à parler de ça, il y a eu d'un peu partout, puisqu'on a regardé un peu ensemble, il y a eu des tas de gens qui nous ont écrit, voilà ce qui m'est passé. Enfin, il y a eu un courrier inouï, hein, presque impossible à répondre tellement il y en avait.
C'était énorme et j'en reçois encore. Simplement, je peux rien faire. Mais le nombre de courriers qu'on reçoit, c'est très étonnant. Moi, je suis persuadé que on dit toujours ensemble, on est plus fort. J'en suis persuadé. On peut pas compter. En attendant, je vais faire café du commerce, j'aime bien. Je pense que nos politiques sont complètement hors sol au niveau de la vieillesse et que si on ne fait pas quelque chose ensemble, ça n'avancera pas. Moi, je trouve que c'est terrible ce qui se passe à l'heure actuelle, malgré... je veux dire, il y a eu Orpea, il y a eu Emra maintenant, on ne peut pas se faire d'argent sur la vieillesse, en fait. C'est juste ça, on ne peut pas faire d'argent sur la vieillesse. Point barre, on passe à autre chose. Voilà, finalement, Orpea, malgré tout, ils s'en sortent bien. Là, j'ai vu sur Challenge, ils ont fait des bénéfices cette année. En fait, ils s'en sortiront toujours. Du coup, oui, dans les EHPAD, dans le métier qu'on fait, on a besoin des journalistes parce que c'est le seul moyen de faire bouger, mais très peu, hein, mais en attendant, ça bouge un peu grâce aux médias. S'il n'y a pas les médias, mais c'est mort. On va être clair, c'est mort.
Alors, justement, c'est peut-être une de mes dernières questions, parce que l'heure file à toute vitesse. Florence, ce que tu disais, j'allais te poser la question sur est-ce que, comme journaliste, tu as le sentiment que, justement, tes articles, tes reportages font avancer quelque chose. Malgré tout, c'est aussi un combat avec l'opinion. Alors, comment on peut, par l'information, parce qu'il suffit d'être informé, quand on sait que quelque chose intolérable se passe, on peut espérer qu'il va se passer quelque chose en retour. Où est le lieu de l'action ? Est-ce que, parce que les politiques, on voit bien, comme tu dis, on fait des déclarations, mais pas des décrets d'application. Comment on peut faire ?
Je pense que dans un certain nombre de secteurs, une action individuelle, non pas individuelle au sens de le faire tout seul dans son coin, mais au sens d'auto-organisation, est celle, je trouve, qui est la plus pertinente aujourd'hui. Il y a un peu partout en France des zones où les gens s'auto-organisent, décident eux-mêmes qu'on va faire comme ci et comme ça. Et je trouve que c'est assez vivifiant. C'est vrai que sur le travail de journaliste, vous savez, quand on parlait des écoles de journalisme, j'en ai fait une moi aussi, et on est biberonné. Alors on vous dit, vous savez, vous êtes dans le pays où il y a le J'accuse de Zola. Donc Zola a eu ce courage, vous allez faire pareil que lui, etc. Donc on est nourri de ça. Et du coup, j'ai regardé un petit peu, je suis tombée sur une thèse d'histoire qui raconte que Zola, quand il écrit ce fameux J'accuse, donc dans le cadre de l'affaire Dreyfus, on le sait tous, 95% à peu près de la presse est anti-Dreyfusarde. Donc pense qu'il est urgent de dégrader Dreyfus, de le déporter, etc., à l'île du diable. Donc pense qu'il est coupable. Zola écrit J'accuse. À votre avis, combien le reste de la presse, hein, encore une fois, la presse qui où transparaît le taux d'opinion, eh bien, de 97%, à combien ça passe après le J'accuse de Zola, qui pour nous est une bascule dans cette histoire-là. Eh bien, ça passe c'est de 95 à 92%. Donc, notre marge, elle est petite. Alors, avec le temps, évidemment, ça s'est arrangé. Mais combien de temps il faut pour que ces idées avancent ? Je pense que y a aussi ça. Nous, est-ce qu'on a tous conscience, pour en revenir aux EHPAD, de « il faut le faire, comment faire ?» Et une chose qui me frappait beaucoup, moi, quand j'y allais pour voir ma grand-mère, on pousse la porte avec un sentiment de culpabilité effrayant. Donc, en se disant, on n'ose même rien dire, en se disant, de toute façon, je l'ai mise là et on ne peut pas la laisser chez elle. Donc, on est empêtré dans cette chose-là. Et je pense que c'est la première des choses, c'est nous débarrasser de ça. Si on en a honte, on ne le fait pas. Si on le fait, eh bien, on le prend en charge réellement. Donc, je crois qu'il y a une... On ne peut plus y aller les yeux fermés comme on l'a fait longtemps. Alors, une dernière chose, quand l'EHPAD s'est réouvert, donc les familles reviennent. Ah, enfin, on revient. Là, je parle encore des quatre saisons avec Laurent. Et donc, il y a les mêmes employés qui sont là, etc. Ça y est, on peut de nouveau les voir, etc. Alors, la famille arrive avec, comme je l'ai fait moi-même, hein, j'en rigole, mais je me voyais, avec la boîte à gâteaux, vous voyez ? Je t'ai pris la tartelette que t'aimes bien, tu sais, celle au citron. Alors on ouvre la boîte à gâteaux, et puis les gens avaient vécu sans leur famille pendant un mois et demi, deux mois, je ne sais plus combien exactement ça a duré. Et en fait, ils avaient chanté avec la voisine, la vie n'était plus qu'à l'EHPAD, il n'y avait plus personne qui venait, la visite du dimanche n'était plus ce qui régulait la vie à l'EHPAD. Et donc ils disaient, non mais en fait, je n'ai pas envie de tartelette, je vais plutôt aller au groupe chant. Mais nous, on passe notre dimanche à venir te voir. Oui, mais non, finalement. Et donc, il y avait tout à fait une autre réorganisation des choses qui était vraiment très marrante. On avait organisé un bal après, tu te souviens ?
Danse, ouais.
Une après-midi de danse, c'était très, très rigolo. Et donc, et du coup, ça, c'était, les choses s'étaient complètement redistribuées. La vie était en effet à l'EHPAD et plus simplement, est-ce que la famille vient ? Ah, c'est une où la famille ne vient jamais, où tout était lu à cette aune-là. Et c'était, elles avaient leur vie et la famille était outrée. On vient et elles ne regardent même pas. Écoute, là je suis là, mais est-ce que ma copine peut assister ? Alors, oh non, on veut rester en famille. Bon, bah alors on part avec ma copine. Et y avait quelque chose de très jubilatoire, à vrai dire.
Laurent Garcia, un petit mot pour conclure.
Juste pour un jour, peut-être ça vous arrivera ou ça vous est arrivé de placer un parent en EHPAD. Il faut arrêter de penser que votre parent va aller mieux. Non, on vieillit. On ne va pas forcément mieux en vieillissant. Il faut arrêter de penser qu'en EHPAD, on va pouvoir laver les dents de votre papa ou de votre maman le soir, tous les soirs. Non, parce que c'est pas possible. Il faut arrêter de penser que votre maman va être douchée tous les jours. Non, on n'a pas les moyens. Une fois que vous aurez compris ça, et une fois que, et peut-être une fois que les directions d'EHPAD auront compris qu'il faut arrêter d'enfumer les gens, peut-être que ça se passera mieux finalement si on vous prévient de ce qu'on va pouvoir faire et de ce qu'on ne pourra jamais faire. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire, quoi qu'on en dise.
Voilà, le discours de la vérité. Merci beaucoup. Merci Laurent Garcia. Merci Florence. C'était passionnant, on aurait continué. Merci à vous tous. Bonne soirée. Et la foire continue, et Florence Aubenas est encore présidente demain.